Farid, bonjour.
Bonjour Mariama.
Bien, alors cher Farid, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que lorsqu'on ouvre votre site internet infobirmanie.org, on tombe sur un décompte c'est le suivant. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 2 mars, il y a 9 ans et 129 jours que Madame Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, est en résidence surveillée.
Alors, si on a mis ce petit décompte, c'est simplement pour rappeler aux gens qu'un prix Nobel de la paix, comme vous venez de le rappeler, est assigné à résidence, que sa maison lui sert de prison. Et en fait, bon, peu de gens savent ce qui se passe en Birmanie, mais beaucoup plus de gens connaissent le personnage d'Aung San Suu Kyi, qui est en fait la leader des démocrates birmans. Avec son parti, elle a remporté les élections de mai 90, en remportant près de 82% des sièges. Et à l'époque, elle était déjà assignée à résidence lorsqu'elle a remporté ses élections. En fait, elle a été assignée à résidence et elle l'est toujours assignée à résidence pour la troisième période de sa vie. Et donc, si on cumule tous les jours, le nombre de jours qu'elle a passé enfermée chez elle, on en est aujourd'hui à 9 années et 125 jours, c'est ça ?
129 jours, j'ai regardé tout à l'heure. Ouais. Alors, Farid, avant de parler de Madame Aung San Suu Kyi, il faudrait peut-être que vous présentiez son père, le général Aung San Suu Kyi.
C'est intéressant de parler avec vous, Mariama, au téléphone, parce que, en effet, Madame Aung San Suu Kyi, si elle a des difficultés aujourd'hui pour faire avancer la démocratie en Birmanie, c'est aussi parce qu'elle est la fille de son père, et son père est le grand héros de la libération et de l'indépendance de la Birmanie, et son père avait réussi à mettre l'ensemble des différents groupe de minorités ethniques. Il avait réussi à les mettre d'accord en 1947 et à faire signer l'ensemble de ces groupes, à leur faire signer le brouillon d'une constitution fédéraliste. Et malheureusement, cette constitution et surtout le père d'Aung San Suu Kyi ayant été assassiné, cette constitution n'a jamais pu vraiment être mise en œuvre. Et encore aujourd'hui, la Birmanie vit encore dans un état de guerre civile.
Alors, le général Suu Kyi a réussi donc à chasser le colonisateur par les armes, c'était les Anglais.
Oui, alors, le père d'Aung San Suu Kyi, on l'appelle Aung San, parce que...
Voilà, c'est un titre honorifique, voilà.
La grand-mère de Aung San Suu Kyi.
Voilà, exact.
Donc il a bouté dehors les Anglais. Alors c'est une période assez particulière de l'histoire birmane parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, pour se défaire des colons anglais, Aung San est allé se former auprès des armées japonaises. Et quand les Japonais ont mis dehors donc les colons anglais, finalement... les Birmans, les nationalistes birmans se sont aperçus que les Japonais étaient encore plus colonialistes et encore plus durs dans le traitement qu'ils infligeaient aux populations. Et donc, à nouveau, Aung San a retourné son alliance. Donc voilà, c'est des années de guerre assez intéressantes dans cette région du monde, puisque on sait que, quelque part, la Birmanie a été un des premiers pays à négocier son indépendance dans le cadre de la fin de la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et surtout dans le cadre de la décolonisation dans le Commonwealth.
Oui, alors c'est parce que beaucoup de gens connaissent le Mahatma Gandhi, qui lui, justement, savait que comme l'Angleterre était en guerre, était d'ailleurs à un moment donné, en 1941, était le seul face aux nazis et face à leurs alliés, il s'est dit qu'il fallait justement faire partir les colons anglais maintenant, quand ils étaient plus ou moins occupés sur un théâtre de guerre mondiale, et il a donc négocié quelque part, par son action, le départ des colons, mais on oublie aussi que d'autres pays l'ont fait, et le premier d'entre eux, et le plus célèbre, c'est donc le père de Madame Aung San Suu Kyi. Voilà. Alors, donc, Madame Aung San Suu Kyi a fait ses études, si mes souvenirs sont exacts, en Grande-Bretagne. Elle y a rencontré... Et en Inde, exact. Toujours dans le sillage donc de ceux qui célèbrent et qui sont les qui recueillent, si vous voulez, la mémoire et les actions du Mahatma Gandhi. Oui. Donc c'est une femme qui est pacifiste, il faut le dire.
Oui.
tout comme le Dalai Lama, ce sont des pacifistes.
Aung San Suu Kyi, au-delà d'être l'héritière spirituelle de l'action de son père, il faut aussi prendre en considération qu'Aung San Suu Kyi a sa propre personnalité et qu'elle s'est construite lors de ses études en Inde et en Angleterre. Elle a été mariée avec un grand tibétologue, Monsieur Michael Harris, qui lui a aussi ouvert les portes d'une autre voie bouddhiste, parce que dans la religion bouddhiste, il y a deux voies principales, une voie Theravada que les Birmans suivent, et puis une voie tibétaine, dont je me souviens plus le nom, mais qu'en France, on a l'habitude de dire grand véhicule.
Exact.
Et en l'occurrence, bon, c'est vrai que le combat d'Aung San Suu Kyi est basé sur ces principes du bouddhisme qui mettent en avant la non-violence, et c'est aussi des principes qu'elle a repris de la lutte pour l'indépendance menée par le Mahatma Gandhi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Aung San Suu Kyi, même si elle est assignée à résidence, même si elle a remporté des élections, même si une bonne partie de la population birmanie soutient son combat, une des raisons pour lesquelles elle n'arrive pas à faire aboutir son combat, c'est que face à elle, il y a une armée pléthorique de 500 000 hommes qui utilisent toutes les armes et toutes les techniques de guerre pour se maintenir au pouvoir. Et elle oppose au pouvoir militaire la non-violence, la compassion, la recherche d'une réconciliation nationale basée sur le respect mutuel. Et là, malheureusement, avec les militaires, elle est en difficulté.
Alors, on va revenir au régime militaire, parce qu'on dit de la Birmanie, bon, ils se sont, les gens qui chercheraient la Birmanie sur une carte, il faudrait lui dire qu'elle a un nouveau nom, c'est le Myanmar.
Oui, malheureusement, les généraux ont rebaptisé ce pays, en rebaptisant le pays, ils ont nationalisé le nom du pays. Le Myanmar, en fait, c'est le nom birman de l'ethnie birmane qui est majoritaire en Birmanie, pour la Birmanie. Mais l'ensemble des citoyens birmans qui vivent aujourd'hui en Birmanie ne se reconnaissent pas dans l'union du Myanmar, ils se reconnaissent dans l'union of Burma,
voilà.
Qui est en fait le nom historique donné à la Birmanie. Et donc voilà, alors on appelle le Myanmar, c'est vrai que la position géographique, on a du mal à la situer, mais c'est un pays carrefour entre deux pays géants que sont l'Inde et la Chine.
Alors, on va en revenir aux généraux birmans, parce que pour ceux qui s'étonneraient que je vous invite aujourd'hui, Farid, et qui s'étonneraient justement que des Français, des Belges, l'Union européenne entière, parce que Info Birmanie, vous êtes en France,
oui.
Mais il y a des antennes d'Info Birmanie dans tous les pays d'Europe. Pour ceux qui s'étonneraient pourquoi est-ce que des Français s'intéressent à la Birmanie, donc c'est un régime militaire, et c'est un régime militaire qui est aidé par notre pays. Farid.
Oui, alors là, on va rentrer justement dans le détail.
Oui.
C'est vrai qu'il y a une dictature militaire en Birmanie, conduite par les militaires donc depuis 1962, que cette dictature militaire, en fait, elle a fait face à un mouvement, un soulèvement populaire en faveur de la restauration de la démocratie en 1988, et que donc les militaires ont écrasé ce mouvement en faveur de la démocratie dans le sang. Il y a eu près de 10 000 victimes et disparus de cette répression sanglante. Et alors, en effet, les militaires ont fermé le pays du reste du monde pendant plus de 26 années. Et en 1988, suite à l'éclatement de cette, on va dire, révolution démocratique, les militaires ont décidé de changer leur politique, puisqu'ils voyaient de la contestation.
Et ils avaient des sanctions aussi contre eux.
De la voie birmane vers le socialisme à la voie birmane vers le capitalisme, en ouvrant donc l'économie du pays. Et parmi les premiers grands investisseurs étrangers qu'on a retrouvés sur les rangs pour aller exploiter les ressources naturelles de la Birmanie, on trouve une compagnie française, une compagnie pétrolière bien connue, une compagnie pétrolière qui s'appelle Total aujourd'hui.
Alors, Total s'est fait connaître d'abord par des catastrophes, je pense à l'Erika en 99, ouais. À l'explosion d'AZF en 2001.
Oui.
Oh, oui. Ben oui, ce sont des catastrophes. Sans compter les populations d'Afrique, les, Congo, les deux Congos, qui savent que Total, enfin Elf, qui est une composante de Total, puisque Total a absorbé Elf, a financé les guerres civiles pendant des décennies. Donc Total, qui est la première compagnie française, donc appuie logistiquement les généraux birmans depuis des décennies. Et c'est pour ça que vous faites partie d'un collectif de 40 ONG qui ont lancé un appel en disant Total pollue la démocratie. Est-ce que vous pouvez en parler?
Oui, alors, je tiens juste à préciser une chose, c'est pas Info Birmanie qui a des antennes dans toute l'Europe.
Oh, pardon,
c'est Info Birmanie qui fait partie d'un réseau européen de soutien démocrate birman, et ce réseau s'inscrit également dans un réseau international de soutien démocrate birman, et c'est ce réseau international qui vient de lancer une campagne donc internationale pour demander à ce que Total se retire de Birmanie. Alors, d'abord, il faudrait rappeler une chose, c'est que Aung San Suu Kyi et les démocrates birmans ont toujours demandé de ne pas faire d'affaires avec le régime birman, de manière à ne pas favoriser les ressources et surtout le maintien de la junte militaire au pouvoir. Et que ces recommandations sont également reprises par l'Organisation internationale du travail, qui condamne l'usage systématique et généralisé du travail forcé. Alors, cette campagne, elle vise une chose, c'est à faire en sorte que Total, qui est en fait la dernière et le plus gros investissement étranger réalisé en Birmanie, Total se retire de Birmanie parce que ce qu'on estime, c'est que lorsque Total a investi en Birmanie, il ne pouvait pas ignorer les graves violations des droits de l'homme commises par la junte militaire.
Alors, et en plus, Total a des plaintes, a une plainte contre lui de travail forcé de travailleurs birmans. Alors, nous avions reçu la semaine dernière Samira Daoud, la coordinatrice de l'association Sherpa, les juristes, qui avait expliqué donc que la plainte qui fonctionne le mieux, c'est celle en France, qui est menée donc par l'avocat William Bourdon et qui est instruite par un juge du tribunal de grande instance de Nanterre, puisque Total a son siège social dans les Hauts-de-Seine, donc c'est le tribunal de Nanterre qui est compétent.
Alors, l'objet de cette campagne, c'est donc de demander le retrait de Total pour que Total et donc la France, quelque part, cessent de soutenir le régime militaire birman. Alors, si on revient un peu en arrière, c'est vrai que le projet de Total en Birmanie et son investissement lui a valu 3 poursuites judiciaires aujourd'hui dans le monde. Il y en a eu aux États-Unis contre Total, mais également contre le partenaire de Total,
une
entreprise américaine, une locale,
qui a d'ailleurs dédommagé et qui a dit que le donneur d'ordre était Total.
Qui vient aujourd'hui pour éviter justement de passer devant les tribunaux et éviter les déballages publics, qui vient aujourd'hui, une locale, de négocier avec les victimes birmanes, les plaignants, pour payer, les dédommager, plutôt que avoir affaire au déballage public.
Oui, parce qu'il faut préciser, Farid, excusez-moi, parce qu'une locale aussi, il y avait non seulement le travail forcé, mais il y avait aussi les viols, il y avait aussi donc les pillages. Alors, il y avait tout ceci.
Sur les chefs d'accusation de la plainte aux États-Unis, on a à peu près 40 chefs d'accusation, dont
qui relèvent de crimes contre l'humanité.
Extorsion de fonds, spoliation. Alors, dans le cadre de la plainte en Belgique, c'est une plainte qui s'appuie sur la loi de compétence universelle et qui vise pas uniquement Total, mais également la junte militaire pour l'ensemble des violations des droits de l'homme commises sur l'ensemble du territoire birman. Donc là, c'est une grosse plainte.
Oui.
Et normalement, hier, la Cour de justice belge devait donner son avis, savoir si cette plainte devait être
maintenue
et jugée ou si il valait mieux la passer par les pertes et profits, puisque la loi de compétence universelle a été revue. Et par contre, il y a également une plainte en France qui a été déposée en août 2002. Aujourd'hui, cette plainte, elle est déposée par 12 plaignants birmans. Et parmi les victimes birmanes du chantier qu'on retrouve dans la plainte en France, on a trois types de victimes du chantier. On a les travailleurs forcés, enrôlés de force par l'armée pour nettoyer la zone du chantier. On a également un militaire déserteur qui est allé recruter de force des villageois pour travailler sur le chantier.
Et qui, voyant
et on a également des gens qui ont travaillé sur le chantier et qui ont été dédommagés par Total au moment où Total s'est rendu compte que il fallait qu'il dédommage les travailleurs forcés donc sur son chantier. Et donc cette personne témoigne que en fait l'argent qu'elle a reçu par Total lui a été ensuite repris et extorqué par des militaires. Voilà, ça c'est à peu près le descriptif des plaignants dans le cadre du procès de Total en France. Et alors ce procès, il est encore en instruction, comme vous le disiez, auprès de la juge
de Nanterre.
À Nanterre. Et récemment, les avocats de Total, toujours aussi sûrs de leur capacité à produire le droit, les avocats de Total ont voulu qu'il y ait un non-lieu qui soit prononcé dans le cadre de cette plainte.
Et il paraît que le parquet de
Versailles a rejeté
et
a demandé à ce que l'instruction soit
poursuivie. Et il est vrai que les avocats de Total étaient soutenus par le parquet de Nanterre qui disait qu'effectivement il fallait que la plainte soit fermée. Et c'est la cour d'appel de Versailles qui a donné plein droit à la juge de continuer son instruction. Alors Farid, il faudrait préciser pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi je vous invite, c'est que les soutiens français à la junte birmane sont les mêmes que l'on cite comme soutien à beaucoup de régimes militaires, je pense notamment à certains généraux de l'autre côté de la Méditerranée. Je vous renvoie pour cela à l'excellent ouvrage de M. Agoun France-Algérie, qui est édité aux Arènes.
Oui.
Et il y a aussi l'ouvrage de M. Verschave chez le même éditeur, les Arènes, et qui s'appelle donc, qui a pour titre Noir Chirac, et qui revient dans un chapitre sur un des plus grands soutiens à la junte birmane, qui est l'ancien chef de cabinet de M. Jacques Chirac, lorsqu'il était maire de Paris, Michel Roussin, qui est devenu célèbre pour l'affaire des HLM de la ville de Paris, et dans lequel, qui était instruite par le juge Alphen, il y a 7 ans de cela.
Oui,
est-ce que vous pouvez préciser justement, s'il vous plaît,
ces réseaux de la France-Afrique que M. Verschave a largement bien décrit, ces réseaux de la France-Afrique, eh ben, on les retrouve également en Asie, et donc on pourrait dire que c'est les réseaux de la mafia afrique, une mafia globale qui s'étend de la Birmanie à la Colombie, et en effet, dans le cadre du développement économique de la Birmanie, Michel Roussin, à l'époque il était PDG d'une entreprise de bâtiments publics, à l'époque a essayé de faire en sorte de profiter du marché birman et fait partie de cette coalition
d'entrepreneurs,
d'investisseurs français qui ont cherché à faire des affaires avec le régime birman.